RFI.fr.
Mondial Sport, Christophe Diremzian,
Cédric De Oliveira.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport, résultats, entretiens et découvertes comme chaque week-end. Le football, bien sûr, d'abord. La Ligue 1 et la Première Ligue à deux doigts de la fin d'un non-suspense. Paris et Manchester City, peut-être champions dès demain. Lyon accentue la pression sur Marseille dans la course à la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, lui, va chercher son nouvel entraîneur à Francfort, Niko Kovac. Et puis nous ferons plus ample connaissance avec le Marocain Nabil El Zahr, le milieu de terrain de Leganés en Espagne. Golden State à l'assaut des phases finales de la NBA, mais pas en pleine confiance. Le tenant du titre du championnat nord-américain de basket démarre la séquence sans sa star Stephen Curry. Houston va-t-il confirmer son excellente saison régulière? On posera la question à notre correspondant Michael Dacosta. Dans l'actualité africaine, le tour cycliste du Togo à la veille de l'arrivée dans la banlieue de Lomé. Et puis c'est un peu le retour aux sources des tours du monde en solitaire. La Golden Globe Race partira le 1er juillet prochain des Sables d'Olonne, 50 ans après la première édition pionnière des périples planétaires. Aucune aide à la navigation moderne alors disposition. Thomas de Saint-Léger a rencontré deux skippers prêts à relever le défi. Depuis la première journée de Ligue 1, à peu de choses près, la question n'est évidemment pas de savoir si le PSG et sa galaxie de stars seront champions de France ou pas, c'est plutôt de déterminer quand. Eh bien, ce sera peut-être demain soir, à l'issue d'un duel au sommet au Parc des Princes entre les Parisiens et Monaco. Les super leaders contre leurs dauphins, une victoire des joueurs de la capitale et la passation de pouvoir avec les Monégasques tenant du titre sera effective. Pour l'instant, cette 32e journée est plutôt le théâtre des autres batailles du moment, à commencer par le mano à mano pour la 3e place entre Lyon et Marseille. Et l'OL a maintenu la cadence cet après-midi en dominant Amiens 3-0 avec Memphis Depay, Mariano et Bertrand Traoré, le Burkinabé. Match loin d'être parfait malgré le score sans appel, estime l'entraîneur Bruno Genesio, mais là n'était pas l'essentiel.
Ce qui était le plus important, c'était de gagner le match, ce qu'on a fait, même si je pense qu'on doit encore, notamment en première mi-temps, être meilleur techniquement et être capable de mettre davantage de rythme encore que ce qu'on a fait en première mi-temps notamment. C'est pour l'instant de bon augure, mais il reste encore 5 matchs et c'est beaucoup, 5 matchs. Dans le foot, il faut toujours faire preuve d'humilité, puisque tout est très vite remis en question, on l'a vu ces derniers temps en Coupe d'Europe. Donc il faut rester avec le même état d'esprit, avec la même implication dont font preuve les joueurs actuellement, si on veut avoir une belle récompense en fin de saison.
Et les Lyonnais comptent provisoirement 3 longueurs d'avance sur l'OM, obligés de suivre le rythme demain lors d'un déplacement à 3, et ce, 3 jours après la qualification de toute beauté pour les demi-finales de la Ligue Europa. Les autres résultats de la soirée, la défaite surprise à domicile de Rennes, 5e face à la Lanterne Rouge, Metz 2-1. Les Lorrains reviennent temporairement à 5 points de la 17e place, synonyme de maintien, malgré un but du Burkinabé Préjus Nakoulma. Nantes cale à la Beaujoire face à Dijon 1-1. C'est Saint-Etienne qui du coup en profite en s'imposant à Strasbourg 1-0. Les Verts prennent la 8e place devant les Canaries. Enfin, nouvelle grosse désillusion pour Lille, tenue en échec par Guingamp 2-2 après avoir mené 2-0 jusqu'au tout début du temps additionnel. Les Nordistes restent relégables. À noter que le match Caen-Toulouse a été reporté en raison des conditions météo. Demain, outre PSG Monaco et 3 Marseille, Montpellier accueillera Bordeaux. Paris proche d'un nouveau titre national, donc Manchester City aussi, deux destins assez similaires d'ailleurs. Comme le PSG, les Citizens écartés de la Ligue des Champions vont au moins se consoler avec le sacre en Première Ligue. Tout dépend en fait de Manchester United, puisque City s'est imposé il y a moins d'une heure à Wembley face à Tottenham 3-1 lors de la 34e journée. Les joueurs de Pep Guardiola comptent à cet instant 17 points d'avance sur les Red Devils. Autrement dit, si United perd ce dimanche chez la Lanterne Rouge West Bromwich, eh bien City sera officiellement couronné. Autre résultat, Liverpool, tombeur des Citizens en quart de finale de la Ligue des Champions, a dominé Bournemouth 3-0 avec deux réalisations du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah. Bonne affaire également pour Chelsea, vainqueur à Southampton 3-2 grâce à un doublé d'Olivier Giroud et un but d'Eden Hazard. La Bundesliga, à présent, le rideau est déjà tombé, vous le savez, pour le titre, puisque le Bayern Munich s'en est emparé sans problème samedi dernier pour la 6e fois d'affilée. Mais le club bavarois reste à la une quand même en ayant confirmé le nom du successeur de Jupp Heynckes à la tête de l'équipe de la saison prochaine. Et il s'agit de Niko Kovac. Bonsoir Julien Méchaussier.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous.
Correspondant en Allemagne, le choix de l'actuel entraîneur de Francfort vient mettre un terme à plusieurs mois d'attente en Bavière.
Et on a même presque envie de dire enfin Christophe, tant ça a été long. Hein. Pourtant, Youp Heynckes, rappelé sur le banc à l'automne après le départ de Carlo Ancelotti, avait été clair hein, depuis le début. S'il avait accepté la demande des patrons du Bayern, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, et bien c'était uniquement pour donner un coup de main, un retour plus que réussi, puisque vous l'avez dit, hein, le Bayern est déjà sacré champion, est toujours en course en coupe et évidemment en Ligue des Champions. Mais voilà, à 72 ans, l'homme du fameux triplé de 2013 souhaite se retirer et profiter de sa retraite amplement méritée.
Alors on le sait, Julien, chaque année à Munich, les objectifs, on l'imagine, sont très élevés. Et en Allemagne, on se demande si Niko Kovac n'est pas un peu un choix par défaut.
Vu le profil hein, recherché, qui a été d'ailleurs décrit à maintes reprises par Hoeneß et Rummenigge dans les médias, eh bien oui, hein, le choix de Niko Kovac en effet de quoi surprendre, puisque ce profil, c'était un entraîneur qui parle allemand, donc ça c'est bon, mais avec une expérience internationale. Et ils sont pas 50 hein, à satisfaire ces deux critères. Il y a évidemment Jürgen Klopp, qui a aucune raison de quitter Liverpool, Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft, champion du monde, mais qui n'a pas entraîné en club depuis des lustres. Et puis, bien sûr, Thomas Tuchel, mais on le sait aussi, hein, l'ancien entraîneur de Dortmund s'est payé le luxe de dire non au Bayern pour répondre aux sirènes du Paris Saint-Germain. Donc oui, hein, Christophe, les réactions ont été très très mesurées ici.
Et pourtant, Niko Kovac, Julien, c'est pas n'importe qui. Ancien joueur du Bayern entre 2001 et 2003. Et puis surtout, il a été sélectionneur de la Croatie quand même.
Exactement, c'était entre 2013 et 2015, après avoir été en charge des espoirs. Niko Kovac, c'est aussi 83 sélections pour la Croatie. Et s'il a grandi à Berlin, dans le quartier populaire de Wedding, au nord de la ville, il a décidé de porter les couleurs du pays d'origine de ses parents. Et puis, rappelez-vous, il a réussi à qualifier la Croatie pour la Coupe du Monde au Brésil. Alors certes, avec un jeu très défensif, mais il avait réussi à faire cohabiter les superstar croate Ivan Rakitic et Luka Modric. La Croatie faisait même figure d'outsider et on sait hein, comment ça s'est fini malheureusement pour la Croatie. Une élimination dès le premier tour avec notamment cette défaite face au Cameroun, 4-0.
Merci beaucoup Julien Méchaussier pour toutes ces précisions. Niko Kovac, on le précise, a signé pour 3 ans. Ajoutons que le Bayern a fêté dignement son 28e titre national devant ses supporters en battant tout à l'heure le Borussia Mönchengladbach assez largement. 5 buts à 1. Les Munichois désormais entièrement tournés vers cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Les doubles tenants du titre européen qualifiés, vous le savez, à l'arraché aux dépens de la Juventus Turin grâce à un pénalty dans le temps additionnel qui a fait couler des litres de salive et d'encre. Y avait-il faute sur Lucas Vázquez? On ne relancera pas évidemment le débat ici, mais il est certain que ce scénario cruel pour une Juve revenue de loin durant le match n'a pas fait gagner au Real la bataille des cœurs, d'autant que la presse catalane en a rajouté une couche en parlant de vol du siècle, fin de citation. Et ça n'a pas du tout plu à l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. Il l'a fait savoir aujourd'hui en conférence de presse.
Je suis indigné et c'est une honte en fait quand on parle de vol, parce qu'en fait c'est ça qui me déçoit. Donc je suis très 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 déçu, très remonté pour ce qui se dit. Pas sur forcément juste le pénalty à lui-même, parce que comme j'ai dit en fait, on peut parler qu'il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Ça c'est l'interprétation. Mais tout ce qu'on peut dire derrière, en disant qu'en fait on n'a qu'à nous donner la Champions League d'entrée au mois de septembre, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça, enfin, mais voyons, il faut arrêter. Nous on est en train de bosser en fait, on bosse, on travaille, on fait tout ça pour essayer d'être prêt, pour essayer d'être bon. Et quand on dit qu'on a volé, ça non, je supporte pas.
Énervé Zinedine Zidane, c'est assez rare chez lui quand même. Zidane qui enchaîne demain avec un déplacement du Real chez la Lanterne Rouge Malaga pour le compte de la 32e journée de Liga. De son côté, le leader, le Barça, a battu le FC Séville 2-1. Bussigné, Suarez et Umtiti, les Catalans en profitent d'ailleurs pour battre un nouveau record d'invincibilité en championnat avec un 39e match d'affilée sans défaite. On reste en Espagne avec vous Cédric, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Avec l'interview de la semaine, le footballeur marocain Nabil Elzar.
Oui, Elzar qui évolue à Leganés, qui a joué justement ce samedi et qui a battu le Celta Vigo 1-0, un match comptant pour cette 33e journée de Liga. Le club de la banlieue madrilène est 14e et compte donc dans ses rangs deux internationaux marocains, Nordin Amrabat et Nabil Elzar, pardon, l'ancien joueur de Liverpool qui n'a plus été appelé en sélection depuis presque 4 ans et pourtant il s'épanouit en Espagne. Cette saison, le milieu de terrain est un titulaire indiscutable, deux buts et une passe décisive. décisive. Il a participé aussi au bon parcours de son club en Coupe du Roi après avoir justement éliminé le Real Madrid de Zidane. Il revient sur sa saison en compagnie de notre correspondant en Espagne, Pierre Chaperon.
Comment ça se passe pour vous, Nabil Elzar, à Leganés, cette saison ?
On est en train de faire une très bonne saison. Et au niveau personnel, je me sens bien. J'ai fait des bons matchs. Je suis allé sur le terrain. J'ai la confiance et le rythme. Tout est positif.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre arrivée à Leganés l'an passé dans les dernières heures du mercato d'hiver en provenance de Las Palmas, autre équipe de première division espagnole ?
En fait, j'étais à Las Palmas où je me trouvais très bien. Le problème qu'il y a eu, c'est que le club a commencé à voir plus grand et ils ont visé d'autres objectifs. Pour eux, il fallait recruter des meilleurs joueurs. Et donc moi, j'allais peut-être pas beaucoup jouer, moins, voire pas du tout. Donc j'ai discuté avec le club et ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de joueurs qui devraient venir. Donc j'ai préféré partir. Et on s'est arrangé pour qu'ils me laissent libre et que je puisse continuer ma carrière.
Et donc, pourquoi ce choix de Leganés ?
J'ai choisi Leganés, en fait, ça s'est passé très vite parce qu'on m'en a bien parlé. C'était un club qui est en train de grandir. Moi, je ne connaissais pas avant de venir, donc je ne savais pas où je mettais les pieds. Je n'ai jamais entendu parler de ce club. Les gens prennent du plaisir à venir au stade. Chaque fois qu'on joue à domicile, c'est une fête. Ma famille, quand ils viennent, ils se régalent, les enfants se régalent parce que c'est vraiment famille.
On va revenir sur un temps fort cette saison, Nabil Elzar. L'élimination du Real Madrid par Leganés en Coupe du Roi. On est en janvier, vous êtes allé gagner à Bernabéu 2-1, alors que vous aviez perdu à l'aller 1-0 à domicile. Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là ?
C'est une fierté d'avoir éliminé un grand. Peut-être qu'ils nous ont pris un petit peu à la légère. Franchement, j'en garde de très beaux souvenirs. Ça sera, je pense, un des plus beaux souvenirs de ma carrière ici en Liga. Et puis tout ce qui s'est passé après, ouais, c'est l'euphorie. Après, sur le stade, on est resté, on a fêté ça. Ouais, surtout pour un club comme Leganés. À partir de là, vraiment, les gens commencent à nous connaître et on a mis, on va dire, Leganés sur la carte d'Espagne.
On va parler de la prochaine Coupe du Monde. Vous êtes marocain, vous n'avez plus été appelé en équipe nationale depuis mai 2014. Participer au Mondial, est-ce que vous y croyez encore ?
Oui, bien sûr. Bien sûr que j'y crois parce que j'ai beaucoup travaillé toute cette saison. Et voilà, maintenant, le sélectionneur fera ses choix, mais j'ai la conscience tranquille d'avoir tout donné. C'est clair que c'est partie de mes objectifs, mais ça, après, c'est pas moi qui décide.
Comment vous qualifieriez vos relations avec Hervé Renard ?
Zéro, nul. J'ai pas de relation en fait. J'ai jamais eu de relation avec le sélectionneur. J'ai reçu une présélection, mais bon, présélection c'est un fax qu'on reçoit au club. Mais j'ai pas reçu ni d'appel de la fédération, ni de contact direct avec le sélectionneur. Il y a d'autres joueurs qu'il faut respecter aussi. S'ils y vont, c'est qu'ils méritent. Mais il y a peut-être des questions qui peuvent se poser. Après, ça c'est pas à moi les poser. Moi, si vous me dites si je dois y aller, je vous dis bien sûr.
On vous sent quand même très impliqué.
Oui, bien sûr. Mais après, même si je ne suis pas qualifié, je fais partie de l'équipe en étant ou supporter ou joueur. Mais comme je vous ai dit, si je ne suis pas sélectionné, je suis le premier supporter. Peut-être que je vais les encourager derrière ma télé ou peut-être que j'aurai la chance de pouvoir être dans le groupe et pouvoir apporter mon expérience. Mais quoi qu'il arrive, je serai derrière l'équipe du Maroc.
Mondial mis à part, c'est quoi le futur professionnel pour Nabil Elzar ? Vous êtes en fin de contrat à Leganés à la fin de la saison. Vous avez 31 ans, bientôt 32.
Moi, j'aimerais, comme je vous ai dit, je me sens bien ici, je me sens bien à Leganés. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. J'ai parlé avec le club. J'aimerais bien rester avec un projet au long terme. Mais maintenant, j'attends qu'ils me fassent une meilleure offre. J'ai des offres dans des championnats un peu plus de seconde zone, on va dire, dont le Qatar. Mais je privilégie le football parce que je me sens bien. J'ai envie encore de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et j'espère que les Ghanais vont me permettre de pouvoir rester ici. Je vais voir comment ça se passe et j'espère de tout cœur pouvoir rester à les Ghanais en priorité et pouvoir avoir un bon contrat et aussi être heureux. Mais après, si ça peut pas se faire ici, j'ai eu d'autres contacts et aussi bon voilà avec d'autres clubs et on va voir comment ça se passe.
Voilà, Nabil Elzar, prochain match pour le Marocain avec Leganés, ce sera mercredi à Villarreal.
Mondial Sport sur RFI.
30 franchises au départ, plus que 16 à partir de maintenant, après 82 matchs en saison régulière. La NBA a attaqué sa seconde partie ce samedi avec la phase finale. 8 équipes dans chaque conférence, Est et Ouest avec dans le casting. Les Golden State Warriors, les champions 2017, remettent leur titre en jeu. Mais le parcours sera rude jusqu'au final de juin. Pour en parler avec nous, notre correspondant aux États-Unis, Mickaël Dacosta. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
Ça démarre avec une bonne réussite, on va dire, pour les Warriors. Ça démarre bien avec une victoire. Il y a quelques instants face aux Spurs de San Antonio, 113 à 92. Mais ça sera sans doute pas toujours aussi simple avec la forte concurrence à l'Ouest et la blessure de sa vedette, Stephen Curry. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement et globalement dans la moitié Ouest du pays, Michael?
Bon, les Warriors démarrent plutôt bien avec ce premier match. Bien sûr, face à une équipe des Spurs toujours dangereuse, mais privée aussi de leur joueur majeur, Kawhi Leonard, blessé pardon, jusqu'à la fin de la saison. Donc, bien sûr, les Warriors sont bien partis, mais il y a quand même une forte concurrence. Stephen Curry, leur meneur star, ne reviendra vraisemblablement que vers la moitié des demi-finales de conférence. Mais l'équipe de San Francisco aura fort à faire, face surtout aux Rockets de Houston, de James Harden et du Camerounais Luka Mbamute, qui ont fait une saison formidable, 65 victoires pour 17 défaites, et qui sont dans une excellente dynamique. Il y a aussi des outsiders comme le Utah Jazz du français Rudy Gobert et les portants très Blazers du duo Damian Lillard, CJ McCollum, les Snipers de l'Oregon, qui sont deux équipes révélations côté ouest et qui peuvent perturber l'équilibre du côté ouest.
À l'est, cette fois, les Cavaliers de Cleveland et de LeBron James n'ont pas fait mieux que la quatrième place hein, après la saison régulière. Quelles sont les équipes qui peuvent là tirer leur épingle du jeu?
Oui, bien sûr, les Cavs, une saison mi-figue mi-raisin, quatrième de la conférence. Mais bon, il faut quand même faire attention parce qu'avec LeBron James dans une équipe, on peut s'attendre un petit peu à tout. Les deux équipes qui tirent un peu leur épingle du jeu sont les Raptors de Toronto, qui ont fini avec le meilleur bilan de la conférence Est, de l'hispano-congolais Serge Ibaka, et l'équipe révélation de cette fin de saison, des Sixers de Philadelphie, qui a terminé la saison sur 16 victoires d'affilée, finale en boulet de canon pour l'équipe du Camerounais Joel Embiid. Il faudra bien sûr faire attention avec la blessure de Joel Embiid qui ne reviendra pas avant le deuxième ou le troisième match de cette série. Mais l'équipe de Pennsylvanie, avec toute la ville derrière elle, peut réaliser de playoffs exceptionnels.
Alors, Luka Mbamute blessé, Joel Embiid, vous le disiez, sera bientôt sur le retour. Mais il y aura tout de même au total 9 joueurs africains sur les parquets durant ces playoffs NBA.
Oui, pour les deux Camerounais, Joel Embiid blessé à l'œil, il a une fracture de l'orbite droit. Il devrait revenir lundi ou mercredi pour le match 2 ou 3 de cette série face au Heat de Miami. Il est out ce soir pour le premier match de la série. Un peu plus grave pour l'ailier Luka Mbamute qui est blessé à l'épaule et qui a un temps d'arrêt indéfini pour l'instant. Donc les Rockets qui perdent leur défenseur principal. Et contrairement aux années précédentes, tous les joueurs africains, les 9 joueurs africains, ce qui est un record pour cette année, engagés en playoff, auront une carte à jouer du malien Cheikh Diallo, le jeune de 21 ans des Pelicans, au Camerounais de Toronto Pascal Siakam, qui va démarrer son match dans quelques minutes, en passant par le vétéran Serge Ibaka. Tous les joueurs venus du continent auront un rôle intéressant et peuvent tirer leur épingle du jeu dans leur équipe. Mais la star africaine de ces playoffs sera vraisemblablement le pivot. All-Star Joel Embiid, le joueur sensation de la saison, avec son équipe de Philadelphie, dont le retour est attendu avec impatience.
Un dernier mot, Michael, sur la saison des Français. Cette fois, c'était plutôt moyen hein, pour la plupart d'entre eux, surtout à cause de pépins physiques.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire pour les 11 Français de la Ligue. Pardon, une saison un petit peu compliquée, beaucoup de blessés, en dehors du rookie des Knicks de New York, le franco-rwandais Frank Ntilikina et le pivot des Jazz d'Utah Rudy Gobert, qui pourrait être élu dans les prochains jours meilleur défenseur de l'année et qui ont réalisé des belles performances. Les vétérans Nico Batum, Evan Fournier et Tony Parker, par exemple, ont au moins raté 25 des 80 matchs de saison régulière pour leur équipe pour cause de divers problèmes physiques. Espérons que les quelques-uns engagés en play-off feront un bon parcours, mais c'est vrai que cette saison est pour l'instant un petit peu compliquée pour eux. Des joueurs tricolores.
Merci beaucoup, Michael Dacosta, en direct de New York. On repart en Afrique, Cédric, avec le cyclisme et la 27e édition du Tour du Togo.
Oui, Christophe, on approche de l'épilogue. 5e étape ce samedi entre Attaque-Pamé et Thévier. 122 km qui se sont conclus au sprint par le Belge Yari Verstraten qui s'est imposé au sprint. Donc, devant le Burkinabé Seydou Bamogo et le Français Michael Dané. Une étape qui s'est terminée dans la confusion et une chute provoquée involontairement par une femme qui voulait rafraîchir les coureurs en leur jetant temps de l'eau. Un coureur l'a percuté, entraînant donc la chute ensuite d'autres participants dans la foulée, ce qui a coupé le peloton en deux. Un incident raconté par le directeur de course Laurent Bezeau.
La plupart des gens, ces personnes jettent des seaux d'eau aux coureurs, donc c'est très dangereux. Et là, on a pu le voir dans le final, à très près de la ligne d'arrivée, les coureurs lancés à plus de 70 km/h. Une femme est venue presque dans le peloton jeter de l'eau. Elle a été percutée par les coureurs. Elle a provoqué une chute massive. Il y a des coureurs qui ont été blessés. C'est pas normal. Il faut arrêter ce phénomène. Il y a une vraie prévention à faire auprès du public.
Cette fin d'étape n'a pas empêché Abdelaziz Nkema de conserver son maillot jaune.
Oui, sa marge de manœuvre est très très mince. Il ne compte, le Burkinabé, que 4 secondes d'avance sur le Belge Sander Cordel. C'est peu, mais Nkema reste optimiste avant la 6e et dernière étape.
Il reste une étape, donc je pense que l'essentiel c'était de conserver le maillot. Les étapes, on essaie si à l'occasion, mais on ne se force pas pour ça. Donc on est à 4 secondes, pas la peine de se puiser pour rien. Il ne reste qu'une seule étape, donc demain c'est maintenant la dernière étape. Donc il reste à chier jusqu'à l'arrivée. Et si l'arrivée se présente et puis on peut essayer de sprinter, je vais essayer de gagner l'étape.
Vous êtes quand même sous la menace des Belges?
Oui, sous la menace parce que c'est 4 secondes. 4 secondes, donc il faut que je sois vigilant. Et puis bon, j'ai même pas aussi peur parce que l'équipe est vraiment construite et c'est solide. Donc je pense que avec l'esprit d'équipe qui règne, je n'ai pas peur. Donc on ira jusqu'au bout, il reste une étape. C'est pas évident qu'on perde le maillot demain.
Voilà, Abdelaziz Nkema au micro de Comelan et Clou. Demain, fin de ce Tour du Togo avec un critérium de 80 km dans les rues d'Agoé, c'est dans la banlieue nord de Lomé.
Petit à petit, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 se structure en parallèle aux arbitrages encore effectués sur certaines infrastructures. Nouvelle étape institutionnelle cette semaine, l'installation de la commission des athlètes, instance présidée par Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon. 18 sportifs membres de cette commission en activité ou à la retraite, mais tous désireux d'apporter leur expérience des Jeux, que ce soit sur le confort des athlètes ou sur les engagements sociétaux lors de la phase de candidature. Impliqué depuis longtemps dans ces dossiers, Stéphane Diagana, champion du monde du 400 mètres en 1997, fourmille d'idées sur ces sujets, des grandes orientations à prendre sur le sport aux petites choses du quotidien, en particulier dans le futur village olympique.
La vie au village olympique, elle est très importante, on y passe du temps, il y a plein de petits détails à soigner. Qu'un athlète pourra y être sensible, peut-être que d'autres personnes passeront à côté, mais tout simplement la façon dont les portes se ferment et s'ouvrent dans une chambre, le bruit que ça fait, le sommeil, c'est tellement capital, c'est tellement dur à trouver quand vous êtes athlète, que nous on va y penser. Les athlètes, ils adorent plein de choses, ils adorent sauter, lancer, courir, mais souvent ils n'aiment pas marcher parce que dans le village olympique c'est épuisant, on a l'impression de perdre de l'influx. Donc comment penser la vie dans le village? Alors il y a plein de choses qui sont posées déjà en termes de structuration, mais il y a des choses à améliorer en termes de mobilité, à réfléchir pour que les athlètes vivent le village de la meilleure façon possible. Après, c'est l'expérience olympique, elle est plus globale que ça, elle est à Paris, elle est en Ile-de-France, mais elle est en France de manière générale. Moi j'ai un rêve d'une conciergerie pour les athlètes. Si je suis athlète et quand j'ai fini mes compétitions, je vais donner un exemple, je suis athlétisme, on va dire, américain, et je sais que j'ai des ancêtres qui sont allés sur les plages d'Omaha. Je viens du fin fond des États-Unis, c'est dommage de venir pour les Jeux et puis après ne pas avoir la possibilité de pouvoir aller visiter ces sites, de pouvoir aller sur le Mont-Saint-Michel, de pouvoir aller... On a un pays qui est compact et qui permet ça. Donc j'espère que dans les offres de partenariat, les athlètes ne seront pas oubliés et qu'on pourra créer des choses comme ça qui en même temps permettront de dire et d'affirmer oui, ce sont les Jeux de Paris, mais de l'Île-de-France et de la France entière, parce que tout le monde pourra en bénéficier. Sur l'étude d'opportunité, on avait déjà réfléchi à tout ça, et puis bien sûr c'est que au-delà de l'expérience de l'athlète, c'est que ça serve notre pays, donc sur sa réflexion sur le sport à l'école, sur le sport et inclusion, sport et handicap, et handicap dans la société. Je veux dire, on peut communiquer grâce aux Jeux paralympiques et grâce à cette lumière qui est mise sur l'handisport, communiquer sur des problèmes de société, sur l'inclusion qu'on n'arrive pas aujourd'hui à prendre à bas-le-corps comme il faut. Donc il faut se servir de ça, de ces leviers, pour changer ce que l'on doit changer. Et le sport santé, bien évidemment, puisqu'il y a des enjeux qui sont colossaux de ce côté-là. Moi, j'ai un de mes frères qui habite de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté des États-Unis, à San Francisco. L'autre jour, je l'ai eu au téléphone. Il dit à ma fille, elle a 13 ans, et tous les matins, ils ont un mile. Ils courent un mile. Tous, sans exception. Et je dis, mec, pourquoi? C'est une compétition? Non. Chacun a sa fiche, ben voilà, t'as bien géré, là t'as apprendre à se connaître, apprendre à se dépasser. Mais c'est pas une compétition les uns contre les autres, c'est juste une émulation. Et je pense que voilà, ça, si on peut amener, parce qu'il y a un enjeu de santé publique, et il y a un enjeu aussi de rapport avec son corps aussi, qui est peut-être compliqué dans notre société plus qu'ailleurs. Et je pense que si les jeux peuvent transformer tout ça, c'est formidable. Nous, en tant qu'athlètes, on a des idées à partager, voilà, et à faire avancer.
Stéphane Diagana, membre de cette commission des athlètes de Paris 2024. Allez, on va prendre une bonne bouffée d'air marin pour terminer. Direction les Sables d'Olonne, ville de départ du célèbre Vendée Globe, la course à la voile autour du monde en solitaire et sans escale, où démarrera le 1er juillet la deuxième édition d'une épreuve presque presque du même genre. La Golden Globe Race, même objectif, mais pas du tout la même configuration. Pas de bolide des mers dernier cri, mais surtout des bateaux anciens, une navigation à l'ancienne, comme en 1968, date de la première édition. Ils seront une vingtaine à tenter cette aventure au long cours. Et parmi eux, Jean-Luc Vandenède, ancien participant au Vendée Globe, qui a rencontré cette semaine Thomas de Saint-Léger.
Ben là, on envoie les voiles, on a envoyé le génois, on a envoyé la grand voile, et puis on va essayer de se déhaler avec le petit vent qu'on a. Et puis voilà, on va se créer du vent apparent.
Et on va où ?
Aux Canaries.
Tant pis pour les Canaries. Cette fois, Jean-Luc Vandenède se contentera d'une petite sortie au large des Sables d'Olonne, la Mecque de la voile. Mais dans moins de 3 mois, le 1er juillet, l'homme aux 5 tours du monde partira pour en rajouter un 6e, le dernier sans doute le plus atypique, c'est sûr. Oubliez les grandes Formule 1 des mers, comme tous les concurrents de la Golden Globe Race. VDH navigue sur un voilier âgé d'une trentaine d'années, un voilier robuste et petit, 11 mètres de long environ. À bord, c'est la règle, pas d'électronique pour se repérer, s'orienter. Une boussole, des cartes, un compas, un sextant, bref, un arsenal comparable à celui des pionniers de 1968. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change, Jean-Luc Vandenède?
C'est un petit peu comme aujourd'hui une voiture où on a un GPS alors qu'avant on avait des cartes dans le vide-poche. Avant, quand il fallait se garer, il fallait tourner le volant très fort parce que les directions n'étaient pas assistées. Il y avait des contraintes qu'on a plus du tout aujourd'hui. On appuie sur un bouton, la vitre descend. Bah là, on est avec la manivelle et ça, et on descend la vitre comme ça. C'est un espèce de retour à l'origine de la navigation. Le fait de connaître le GPS fait que ça va évidemment sûrement nous manquer, surtout au début. On n'est plus habitué aujourd'hui à naviguer à l'estime avec le compas, la distance qu'on parcourt, mais il y a des milliers de marins qui ont fait comme ça avant, on va se réhabituer à ça, et je me suis déjà en partie réhabitué à faire ça. Et alors quand on tombe comme le GPS, on se dit « Waouh, c'était pas mal ce coup-ci !»
Du matériel basique, le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, mais un défi immense et long, très long. Loin des standards d'un Vendée Globe, les premiers mettront environ 8 mois, les autres beaucoup plus forcément. C'est toute une logistique à adapter.
Niveau nourriture, au niveau flotte, il faut tout emmener. Alors la flotte, on peut à la limite récupérer de l'eau de pluie. Sinon, on emporte tout et c'est des produits qui se conservent. Heureusement, en France, on a la chance d'avoir des produits qui se conservent emballés dans des sachets, dans des trucs qui sont assez légers. On n'en est plus à la grosse boîte de conserve pure et dure des parents. Mais j'emmène des très bons petits plats et j'emmène donc 500 plats de résistance. 500 entrées, puisque je prévois 250 jours de nourriture.
Lui devrait prévoir beaucoup plus. Né l'année de la première édition, en 1968, l'Australien Kevin Farbrother partage son temps entre son métier pompier et des défis. L'Everest, qu'il a déjà grimpé 3 fois, et maintenant l'Everest des mers, le tour du monde avec une expérience très limitée, aucune traversée d'océan. Sacré pari, mais alors pourquoi le tenter sur cette course si particulière ?
Parce que c'est simple, il y a moins de choses à apprendre. D'une certaine manière, c'est moins difficile pour moi. Je n'ai pas besoin de savoir lire les outils de navigation modernes, les bulletins météo. Il faut juste que j'anticipe, que je sente les changements de temps. Il y a quand même certains aspects techniques que je travaille encore. Mais bon, je suis confiant, je serai prêt pour le départ.
Peu d'expérience, mais l'assurance d'un vieux loup de mer. Ça s'entend dans les mots, ça se lit dans l'attitude, méticuleux, professionnel. Kevin Farbrother est déjà dans sa course, techniquement, physiquement et surtout mentalement.
Une ascension, c'est plus physique. La voile, dans une course comme ça, c'est plus mental. À cause de la durée, à cause de la solitude. Bref, ce sera un énorme défi mental. Plus que l'Everest, je pense. Chaque matin, je me réveille dans un état d'esprit différent. Parfois, je suis inquiet, parfois je suis anxieux ou effrayé. C'est normal d'avoir peur. C'est pareil en montagne. Ça vous permet de rester concentré. Si vous ne l'êtes pas, c'est que quelque chose cloche.
Et s'il fallait un argument supplémentaire, cette statistique sur les 9 concurrents de l'édition 1968, un seul est rentré à bon port. Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
On espère un peu moins de casse pour cette édition 2018. Rendez-vous donc le 1er juillet. Mondial Sport, c'est fini pour ce soir. Merci à Olivier Roux et Yann Bourdelat pour la réalisation. La suite demain à 21h30, temps universel. Et dans un instant, 24h en France avec Romain.